Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de notre podcast dédié aux initiatives inspirantes pour le développement des communautés locales. Ici, nous mettons en avant des projets innovants mis en œuvre par des enablers of skills for local development, ceux qui renforcent les compétences sur le terrain avec passion et engagement. Je suis Bintou Silla, directrice du bureau de consultance SLD, fondatrice de la communauté des Enablers of Skills for Local Development, ESLD. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Chana Gildas Delmas, président de l'ONG Ardu, un acteur engagé dans la défense des droits de l'homme et l'autonomisation des communautés au Cameroun, et plus précisément dans la région de l'extrême nord. Monsieur Chana, bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Madame Bintou, c'est un plaisir pour moi de partager avec vous.
Alors, pouvez-vous vous présenter et brièvement nous parler de l'ONG Ardu?
Si, moi je m'appelle Chana Gildas Delmas et je suis acteur humanitaire. L'ONG Ardu a été créée le 11 septembre 2019 dans la ville de Maroua, région de l'extrême nord du Cameroun. Nous travaillons depuis lors dans le domaine de protection en général, où on peut trouver la protection de l'enfance, la lutte contre les VBG, oui, la culture de paix, autonomisation et tout ce qui concerne le volet droits humains.
Merci, merci Monsieur Chan. J'ai eu le plaisir de vous rendre visite, de voir vos activités et de goûter aussi vos différents plats. J'ai été ravie de rencontrer votre équipe. Et bon, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans la défense des droits de l'homme, mais aussi dans l'autonomisation des communautés locales à Maroua. J'ai vu que vous êtes engagé aussi dans la transformation alimentaire. D'où vient cet engagement?
D'accord. Il faut d'abord noter que je suis un ancien enfant de la rue et la motivation vient donc de mon vécu. Oui. La question ici de voir comment est-ce que les vies pouvaient être transformées, notamment celles des déplacés internes de la crise dite anglophone au Cameroun et qui se trouvaient dans la région de l'extrême nord. Les déplacés internes également liés à la crise sécuritaire de la région imposée par les gangs. Il y avait cette importance de voir comment est-ce qu'on peut créer un cadre d'accompagnement pour faciliter leur insertion, soit en santé mentale, voire même socio-économique.
Excusez-moi, pour nos auditeurs, les GAN, ce sont les groupes armés non étatiques, hein, c'est bien ça?
Évidemment.
Ouais. Parfait, ouais. Et donc, vu le contexte, vous avez fait un état des besoins?
Justement, nous avons essayé de faire une enquête de terrain, oui, un sondage, ce qui nous a démontré que beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants étaient laissés à eux-mêmes, voire perdus dans certaines communautés.
Oui, tout à fait. Alors, quelle est la mission principale de l'ONG?
La mission principale d'Ardu est de promouvoir et défendre les droits humains en mettant un accent particulier sur l'autonomisation des femmes et des jeunes filles.
Pourquoi axer cela sur l'autonomisation? Pourquoi les femmes et les jeunes filles?
Je pense que la question est très importante. Nous sommes dans une région particulière où le droit de la femme, à un moment donné, n'est véritablement pas pris en compte. Les penseurs culturels, voire même religieux, placent la femme en dernier plan dans la communauté. Il était donc question de faire balancer la donne en donnant une importance particulière dans la promotion et la défense des droits des femmes et de la jeune fille en particulier. Alors, l'approche ou alors la méthodologie que nous adoptions, c'est la stratégie de sensibilisation et de manière participative. Donc, nous contactons les aînés, les élites, à qui nous essayons de discuter en présentant les droits fondamentaux de l'homme, qui est quelque chose que nous ne pouvons pas arracher à l'être humain, et nous essayons de leur amener à voir les choses au-delà de ces pesanteurs culturelles, voire religieuses.
Magnifique, c'est très intéressant. On parle depuis le début hein, de l'autonomisation économique des femmes, des jeunes filles. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets?
Oui, à Ardu, nous sommes appuyés sur l'autonomisation, notamment la couture, qui
Oui.
est la conception et la fabrication des vêtements, où nous avons d'ailleurs créé un centre qui est déjà fonctionnel depuis 1 an aujourd'hui. Nous avons également la fabrication du savon liquide, qui est une pratique plus facile à adopter et même s'adapter dans le contexte de la région de l'extrême nord. Nous avons également, dans le cadre de l'agriculture, des champs expérimentaux qui permettent à nos bénéficiaires de pratiquer de manière concrète la culture biologique. Nous avons également, la fabrication des perles et beaucoup d'autres.
Oui, j'ai eu l'occasion de voir ces perles, les colliers. Vous faites de la confiture, des gâteaux. Maintenant, qu'est-ce que si vous deviez donner quelques conseils à ceux qui ont une forme d'association et qui voudraient maintenant se professionnaliser, avoir une meilleure gouvernance de leur ONG. Parce que j'ai pu voir, justement, et c'est pour ça aussi que vous avez été labellisé ESLD, que vous êtes vraiment bien organisé maintenant, vous avez une bonne gouvernance, vous avez votre documentation, vous avez également une bonne gestion financière. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller par rapport à votre parcours, au parcours de Ardu.
Oui, s'il faut parler du parcours d'Ardu, il faut noter que toute organisation qui se dit une organisation qui veut grandir doit d'abord mettre l'accent sur la documentation.
Ouais.
Parlant de documentation ici, on parle du fait d'être premièrement en règle avec l'État qui vous accueille ou qui vous permet de commencer vos activités. Après cela, il y a le manuel de procédure financière et administrative. Toute organisation doit l'avoir. C'est pour nous, chez les chrétiens, on va parler de notre Bible. Chez les musulmans, on va parler de leur Coran. Alors, il y a également à côté à ça plusieurs politiques, genre sécuritaire, protection de l'enfance. Chaque organisation qui se veut sérieuse doit l'avoir.
Tout à fait.
Nous sommes aussi dans un monde où les choses évoluent. Nous parlons d'autonomisation ici. Le conseil que je peux donner, c'est d'amener chaque organisation à être autonome. Ça veut dire que si nous
Magnifique.
conseillons à nos bénéficiaires, nous devons être capables de prouver que ça marche.
Oui.
Et pour le prouver, c'est en pratiquant cela nous-mêmes. Voilà pourquoi à Ardu, comme je l'ai dit tantôt, nous avons mis sur pied un centre de formation où tous les produits que nous commercialisons, autant pour moi,
Oui.
sont fabriqués maison. Donc, voilà un peu quelques conseils que je peux donner. Il y a également la collaboration. Vous voyez, nous sommes appelés à collaborer avec d'autres structures, parfois mieux structurées que nous,
Oui.
qui ont des choses que nous, nous n'avons pas.
Et
Et
c'est
quand
la
on arrive à une réunion,
complémentarité, oui. C'est
justement.
exactement ça. Vous avez abordé cette question hein, de l'autonomisation aussi de l'ONG. Ne pas toujours dépendre des fonds, de l'aide internationale, des fonds internationaux. Donc, comment est-ce que Ardu fait pour avoir des fonds propres?
Oui, déjà, la première source de fonds propres c'est les cotisations des membres.
Oui.
Donc, avant d'intégrer Ardu, nous vous expliquons comment est-ce que nous fonctionnons actuellement. De l'autre côté, avec les projets que Ardu a commencé à avoir, il y a des pourcentages qui reviennent à l'association,
Oui.
que nous faisons l'effort, n'est-ce pas, de valoriser à sa juste valeur. Je vais prendre un exemple. Actuellement, Adieu est dans un processus d'acquisition d'un espace, donc d'un terrain. C'est à cause des cotisations et des pourcentages que nous avons reçus l'année dernière, parce qu'il faut noter, c'est l'année dernière que nous avons commencé à recevoir des fonds.
Ah.
Donc, ceci est une étape. La prochaine étape sera de mettre sur ce terrain des cultures qui vont certainement générer lorsqu'elles seront vendues après production ou récolte.
Oui.
Et ensuite, nous allons construire des espaces que nous allons certainement mettre en location ou encore des espaces qui vont abriter le siège d'Ardu pour ne plus se voir en train de dépenser de l'argent pour la location.
Tout
Donc
à
voilà
fait.
autant de choses que nous sommes en train de mettre sur pied pour faire évoluer les choses et rester autonomes. Il y a beaucoup d'autres idées qui vont venir avec le temps parce que nous sommes dans un contexte où on ne veut véritablement plus dépendre à 100% des bailleurs.
Il va falloir à un moment donné que les ONG africaines deviennent un peu plus autonomes et génèrent leurs propres fonds. Il faut maintenant, ça doit, il faut un sursaut pour essayer de s'autonomiser. Moi, j'ai une question. Vous qui êtes le président Nardu, quelle est la plus belle réussite de votre ONG depuis sa création?
Aujourd'hui, nous avons des femmes qui se sont autonomisées et qui ont mis sur pied des structures qui leur permettent déjà de gagner quelque chose.
Lorsque je vous ai rendu visite à Maroua, j'ai rencontré des femmes qui ont ouvert leur petit espace de couture et qui font de jolis vêtements. J'ai aussi vu des femmes faire des gâteaux. Donc, et ça, c'est magnifique.
Justement, bientôt, comme exemple concret, nous avons quelques femmes qui se sont démarquées en couture et qui aujourd'hui font leur petit bout de chemin. Nous avons des femmes qui se sont lancées dans le volet gastronomie,
Oui.
qui font des gâteaux,
Ouais.
qui font des
Délicieux.
prestations. Aujourd'hui, je prends un exemple. Si Ardu a un atelier, Ardu ne va plus aller chercher ailleurs.
Ouais.
Il y a des femmes, Ardu a formé, et ce sont ces femmes qui vont gagner des marchés. Et nous avons d'autres femmes qui ont ouvert plutôt des boutiques et qui sont aujourd'hui en train de faire leur petit commerce. Mais il faut noter que nous avons aussi un gros défi. Je vais prendre l'exemple de la couture, par exemple. Nous avons des jeunes garçons et des jeunes filles qui font des très beaux vêtements et nous cherchons des ouvertures commerciales pour pouvoir les écouler.
Oui.
Nous avons également, dans le cadre de l'agriculture, nous faisons dans la conservation. Et ceci reste encore un défi pour nous pour pouvoir faire écouler ces produits. Mais notons ici que nous avons des exemples concrets sur le terrain, des personnes qui ont bénéficié de notre formation et de notre appui qui, de mon humble avis, se démarquent des autres.
Oui, je trouve que vous avez soulevé un grand défi que je vois souvent d'ailleurs hein, auprès des membres de ESLD. C'est vraiment dans la chaîne de valeur l'aspect accès au marché. C'est-à-dire, une fois qu'on a produit, comment est-ce qu'on arrive à vendre, à se faire connaître tant au niveau du marché national que le marché international? Et c'est vrai que c'est là où peut-être il faudrait ajouter dans les formations tout ce qui est nouvelles technologies, les ventes en ligne pour acquérir de nouvelles compétences aussi, accéder à tout ce qui est informatique. Et c'est vrai que là vient la question effectivement de l'accès à Internet. L'accès aux ordinateurs, mais je pense que justement c'est quelque chose qu'il faudrait en termes de formation aussi. Donc c'est vrai que vous faites bien de souligner cet aspect-là.
Oui, justement, tout comme vous, nous connaissons le contexte de nos de nos zones d'intervention
Ouais.
et a dû, dans sa posture d'être résilient face à toute éventualité, aujourd'hui, c'est même la semaine dernière, on va dire en début du mois de mars, a décidé d'envoyer trois de ses staffs en formation, justement dans le domaine des TIC, ce qui pourra peut-être dans l'avenir nous aider à améliorer notre image et faciliter l'accès au marché. Mais j'insiste sur le fait que c'est toujours un défi parce qu'à notre niveau, nous ne sommes pas encore à la hauteur ou alors nous n'avons pas des compétences pour pouvoir faciliter cela.
Vos activités ont un impact positif sur les communautés. Mais comment est-ce que vous évaluez cet impact-là?
Merci pour la question. Premièrement, perdu en son sein à 1 000.
Ah ouais.
Donc, c'est un agent
Très bien.
qui est chargé de faire le suivi et l'évaluation de toute activité menée par Ardu, que ce soit dans le cadre des projets ou des activités propres. Alors, celui-là a des instruments, des documents adaptés pour faire cette évaluation. Et de temps en temps, nous déployons des équipes sur le terrain qui mènent des enquêtes auprès des communautés cibles que nous considérons comme nos bénéficiaires, auprès des autorités administratives, traditionnelles, religieuses et même sécuritaires. Alors, c'est après cette analyse que nous arrivons à connaître l'impact que le travail dont nous menons sur le terrain est en train de changer des vies ou alors il y a eu un souci à un niveau ou un autre. Donc voilà un peu comment nous nous déployons sur le terrain pour pouvoir évaluer le travail que nous sommes en train de faire depuis quelques années, tout en notant qu'aujourd'hui nous avons des résultats très remarquables, ce qui nous amène d'ailleurs à booster nos équipes sur le terrain. Pourquoi? Parce que c'est ces évaluations qui nous amènent à corriger
Tout à
nos
fait,
erreurs. Et
oui.
rappelez-vous que ces évaluations sont mensuelles, trimestrielles et annuelles.
Tout à fait. C'est ce qui m'interpelle, vous dites changer des vies. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'une personne qui a vu sa vie être améliorée grâce à vos activités?
D'accord, peut-être je vais donner deux exemples. Le premier exemple, c'est une dame qui était déplacée interne, donc qui est retournée parce
Oui.
qu'elle a été enrôlée avec des activités des groupes armés non étatiques et est revenue en communauté.
Oui.
Et dans notre département santé mentale, nous avons déployé un psychologue qui a fait son suivi. Et c'est justement avec ces évaluations qu'on a pu savoir si cette personne est bien portante ou il fallait encore l'accompagner. Notons ici que durant le processus d'accompagnement, elle a été appuyée financièrement pour ouvrir un commerce qu'elle est en train de gérer aujourd'hui. Et son témoignage est très positif. Le deuxième cas, c'est le cas d'un enfant dans la zone de Moscota. Dans le cadre d'un projet de protection de l'enfance, cet enfant a été blessé par les balles lors des tirs entre les gangs et les forces de défense et de sécurité. Alors, notre prise en charge est allée au-delà même de ces moyens qui avaient été mis par le bailleur pour la réalisation de ce projet. Et pourquoi est-ce que nous sommes allés au-delà? C'est justement avec je veux dire, les évaluations qu'on faisait pour savoir si ces personnes se sentaient déjà en sécurité ou pas. Et aujourd'hui, cet enfant marche sur ses deux pieds et joue déjà au ballon. Je vais me dire que cette année, nous l'avons scolarisé et il va à l'école.
Moi, je suis toujours émerveillée par l'impact visible hein, des activités des acteurs locaux. Parce que voilà, vous êtes sur le terrain, vous connaissez très bien les besoins et vous arrivez vraiment à améliorer la vie des communautés. au quotidien. Après, vous ne savez pas le faire seul. Comme vous l'avez dit au début, il faut collaborer. Il faut des partenariats. Vous travaillez avec quel partenaire, justement, pour aller plus vite?
Alors, premièrement, je vais reconnaître que nous avons eu un partenaire, ce qu'il faut être,
Oui.
qui nous a accompagnés et continue à nous accompagner, surtout sur le volet technique et administratif. Grâce à la collaboration avec cette organisation, je peux dire que beaucoup de portes se sont ouvertes et cela a permis qu'on ait des marchés sur le plan. Je veux dire, cela a permis qu'on ait des projets et non des marchés, non seulement sur le plan national, mais jusqu'au niveau international. Et je le disais à la suite, nous avons aujourd'hui un partenariat avec l'UNICEF dans le cadre de la protection de l'enfance. Nous avons eu
Oui.
un partenariat avec FHI 360 dans le domaine de la résilience. Nous avons eu un projet avec Agency, qui est une organisation allemande qui fait dans la promotion de paix et cohésion sociale. Je ne vais pas oublier NOCAP, qui a été également un pion
Tout
stratégique
à fait.
pour faciliter tous ces partenariats et appuis financiers. Donc, sur le plan local, je vais préciser que nous collaborons avec les organisations sœurs, sans oublier surtout les institutions étatiques.
Alors, pour terminer, vous êtes une ONG, il y a des besoins. Et pouvez-vous nous dire un peu quel type de soutien plutôt vous sont les plus nécessaires actuellement?
Je veux dire premièrement que le premier besoin reste financier parce que tout ce que nous faisons demande des finances. Nous sommes très limités de ce côté. Après le volet financier, nous avons besoin également de soutien logistique. Il y a beaucoup de machines que nous voulons installer dans nos locaux, notamment des machines dans le volet de la couture. Et là, je
Oui.
parle des machines plus professionnelles.
C'est ça,
Nous avons
exact.
également. Nous avons également nous avons besoin des engins, des motopompes dans le volet culture parce que nous faisons dans la sécurité alimentaire.
Alimentaire.
Nous avons parlé tout à l'heure des TIC. Nous avons besoin des machines informatiques pour pouvoir évoluer. Et à côté de ça, les expertises également techniques.
Alors, avant de conclure, que souhaitez-vous dire aux auditeurs qui découvrent Ardu aujourd'hui?
Oui, je ne peux que dire que Ardu est ce qu'elle est aujourd'hui à cause de ses auditeurs. Et Ardu s'engage non seulement à continuer ses activités, mais à améliorer la qualité de ses réponses. Donc, vous allez toujours compter sur Ardu et Ardu sera à la hauteur pour vous servir.
Merci beaucoup, Monsieur Tchana. Nous espérons que votre travail continuera à impacter positivement de nombreuses vies. Et vous, chers auditeurs, merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à partager ce podcast et à suivre Ardu dans ses actions. À très bientôt!